Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Nos entrepreneurs ont de fabuleuses idées pour protéger notre planète. Vous allez l'entendre, jeunes diplômés de l'INSA à Toulouse, Antoine Escande et Simon Buoreau ont inventé une douche qui va nous permettre de réduire considérablement notre consommation d'eau. Est-ce que vous vous douchez tous les jours, plusieurs fois par jour? Combien de temps restez-vous sous la douche? On va se pencher dans cette émission sur nos habitudes sous la douche. Bonjour Antoine Escande. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bonjour Simon Buoreau.
Bonjour.
Vous êtes des géotrouve-tout, vous êtes des inventeurs et vous avez inventé une douche donc, qui va nous permettre de réduire notre consommation d'eau. Votre entreprise s'appelle ILIA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ILIA?
On a donné
C'est Simon qui va répondre dans un premier temps.
On a donné le nom ILIA à notre projet parce qu'on pense qu'il y a un monde nouveau à bâtir.
Ouais.
ILIA, c'est le début d'une phrase et du coup, c'est le début d'une nouvelle histoire à écrire.
D'accord, une nouvelle histoire puisque vous êtes, on va dire, tout jeune. Quel âge avez-vous?
Moi, j'ai 24 ans.
Et moi, j'ai tout juste 25 ans.
Voilà, 24 et 25 ans et vous venez de créer votre entreprise.
C'est bien ça.
Donc, sortie d'études il y a 2 ans, c'est ça?
C'est ça.
Vous étiez tous les deux à l'INSA et c'est là que vous vous êtes rencontrés?
Exactement, c'est du coup à l'INSA de Toulouse, pendant nos études, qu'on s'est rencontrés tous les deux. En cours, mais aussi pendant de multiples investissements associatifs qu'on a eu sur le campus,
ouais,
dans plusieurs structures, qui avaient toujours une coloration environnementale ou sociale. On a commencé par une association qui construit des voitures, qui participe à des compétitions, mais le but, c'est pas d'être le plus rapide, mais de consommer le moins d'énergie. Après, on s'est impliqué aussi dans une association qui s'appelle Green INSA.
Ouais.
On a participé à la fondée, suite au film Demain de Cyril Dion.
Mm-hmm.
Qui porte des initiatives de développement durable sur le campus, donc qui anime un jardin partagé, des conférences et d'autres événements qui visent à sensibiliser au développement durable des étudiants. Et on a participé aussi à monter en dernière année de notre cursus à l'INSA une association qui s'appelle Ingénieurs pour Demain, qui rassemble des étudiants, des ingénieurs en poste et des personnels et des profs de l'INSA, qui vise à faire réfléchir les étudiants sur le rôle dans la société de l'ingénieur.
D'accord, ok. Vous aviez envie déjà à ce moment-là, c'est peut-être Simon qui allait nous en parler, de créer votre entreprise. Vous y aviez déjà pensé?
Alors c'est effectivement quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis un bout de temps. Parce que si on a créé cette association Ingénieurs pour Demain, c'est que nous aussi, en premier lieu, on se posait ces questions. Quel rôle, quel sens on veut donner à notre métier d'ingénieur? On avait envie d'avoir de l'impact sur la société, sur l'environnement. Et à avoir participé à la création de toutes ces associations et en avoir pris parfois la tête, la présidence, la trésorerie, ça, c'était déjà pour nous une manière d'apprendre à gérer des projets, gérer des équipes. Et on s'est dit, en fait, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on a peut-être dans le sang et on a envie de se lancer.
Alors pardonnez-moi ce jeu de mots, ça coule de source. On va parler de la douche, donc vous vous êtes dit il y a quelque chose à faire sous la douche. Et pourquoi? Parce qu'en fait vous êtes des gros consommateurs d'eau, de gros consommateurs d'eau, vous passiez beaucoup de temps sous la douche. Enfin je ne veux pas rentrer dans votre vie personnelle, mais...
Ah, c'est vrai que quand on parle des habitudes de consommation sous la douche, c'est toujours un peu intime. Non, on n'était pas forcément des gros consommateurs d'eau, mais on se posait des questions sur nos modes de vie, nos modes de consommation, même au global, c'est-à-dire dans nos manières de se déplacer, dans nos habitudes alimentaires et puis dans nos modes de consommation d'eau et d'énergie. On commençait à réfléchir comment on peut faire attention à ça. On s'est rendu compte que la douche, c'est la plus grosse consommation, c'est le premier poste de consommation
40%,
en eau d'un foyer,
oui.
C'est 40% effectivement en moyenne. Et c'est aussi le deuxième poste de dépense en énergie. Ça représente 12%, c'est bien moins que le chauffage, mais ça reste une consommation importante. Et on s'est dit, en fait, c'est le premier geste du quotidien auquel on peut s'attaquer pour réduire autant les consommations d'eau et d'énergie, mais aussi pour justement sensibiliser plus largement au mode de consommation. Se faire poser la question aux gens... Qu'est-ce qu'on consomme, comment on consomme et comment on peut faire attention à notre consommation?
Voilà, c'est ça. Donc la première chose que l'on fait effectivement, plus ou moins, en se réveillant, on allume la douche. On fait couler un petit moment parce que l'eau est froide, c'est ça. On attend que ça arrive dans les tuyaux, etc. Et puis on reste sous la douche. Alors si on est bien réveillé, ça va très vite. Ça peut être 5 minutes en moyenne, une douche, c'est ça?
Plus,
sinon ça peut être un quart d'heure.
En moyenne en France, le volume de la douche, c'est 80 litres d'eau.
Oui.
Donc ça représente quand même un volume conséquent à chacune des douches. Là encore, ça dépend beaucoup des personnes qui prennent de leurs habitudes. Les doucheurs du matin et les doucheurs du soir n'ont pas le même profil de douche. Quand c'est une douche uniquement fonctionnelle, d'hygiène, qui va vite et parce qu'on est pressé, parce qu'on n'est pas en retard, ou bien une douche de détente où on va prendre le temps et c'est un moment de confort aussi. C'est pas du tout les mêmes habitudes, mais en moyenne c'est quand même 80 litres à chacune des douches.
Alors vous m'aviez confié avant de préparer cette émission que vous aviez un petit secret: quand vous prenez votre douche, vous mettiez de la musique.
Oui, mais avant même qu'on ait cette idée d'entreprendre, personnellement je mettais de la musique pour deux choses. Déjà c'est un moment agréable d'avoir de la musique, mais c'est aussi et surtout pour garder un repère temporel. Souvent, vu que c'est un moment qui est agréable, la douche, on pourrait se perdre dans nos pensées et juste profiter du temps qui passe sans s'en rendre compte. L'intérêt de la musique, c'est qu'on sait qu'en moyenne, c'est 3 minutes par musique. Et si on en entend 2, ça commence à faire. Et si on commence à avoir la troisième musique, ça pose question. Donc c'est aussi garder un rapport au temps sous la douche pour ne pas surconsommer.
Voilà, tout à fait. Si vous avez toute la playlist, là, il y a vraiment
c'est
un
qu'il y a
souci.
Un souci.
Alors, vous avez créé donc un procédé. Alors, ça existe, on va le dire déjà. Alors, c'est-à-dire que vous allez tout nous expliquer comment ça marche. Ça nous permet de consommer moins d'eau, mais de quelle façon concrètement?
Alors aujourd'hui, le mode de consommation qu'on a sous la douche, c'est lié à la consommation en eau, c'est qu'on prélève de l'eau dans le milieu, elle est potabilisée par des grosses stations de traitement, c'est mis dans le réseau, des châteaux d'eau, des grosses pompes, ça arrive dans la maison, on vient la chauffer. Et puis après, on utilise la douche que quelques secondes, elle coule sur nous, puis elle repart encore tiède, donc avec de l'énergie à l'égout.
Oui.
Assez peu polluée d'ailleurs, et elle repart en station de traitement avant d'être remise dans le réseau naturel, dans l'environnement. Donc ça fait beaucoup d'étapes pour quelques secondes d'utilisation avant de repartir pleine d'énergie à l'égout. Nous, on s'est dit comment on peut pas prolonger la durée de vie de ces gouttes d'eau en leur proposant d'être recyclées en direct. Donc au lieu de partir à l'égout encore chaude, on vient la pomper, la nettoyer grâce à des filtres et la réchauffer pour la faire circuler en circuit fermé dans la douche. Et donc, c'est 5 litres d'eau qui tournent dans la douche, quelle que soit la durée de la douche.
D'accord, donc on se douche avec la même eau que l'on vient d'utiliser pour se faire le shampoing.
Exactement, le système de filtration.
Elle est filtrée.
Elle est nettoyée, elle est propre et elle cycle. Et c'est uniquement à la fin de la douche que l'eau est évacuée avec les saletés à l'égout. Ce qui fait que je ne me douche pas avec la même eau que mon coloc. C'est de l'eau neuve qui est prélevée au début de ma douche, 5 litres, et qui sont évacués à la fin de ma douche uniquement. Et donc on passe d'une consommation en moyenne de 80 litres à 5 litres.
À 5 litres. 5 litres suffisent en fait.
Tout à fait.
Alors l'eau est nettoyée, elle passe à travers des filtres. Il s'agit de quel type de filtre? Des filtres à sable par exemple?
Il y a différents étages de filtration qui permettent de filtrer d'abord les plus grosses particules jusqu'aux plus fines. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir en sortie de système une eau qui est propre à l'utilisation de la douche.
Ouais, d'accord. Alors des grosses particules, par exemple, vous pensez à quoi?
Les cheveux, cellules de peau,
voilà, tout ça,
des poussières. Et après, c'est plus petites particules avec le savon, les particules, les cellules mortes, etc.
Vous en êtes où en termes de commercialisation?
Alors, on est en cours de développement. Ouais. On a une preuve de concept et un prototype de laboratoire qui nous a permis de réaliser une campagne d'essai montrant la qualité de l'eau en sortie du système, prouvant le recyclage. Maintenant, on est en train de développer un système qui serait possible d'installer chez un client, parce qu'aujourd'hui, notre prototype, il ressemble en rien à une douche qu'on pourrait installer. C'est vraiment un outil de laboratoire. Notre but, c'est qu'on développe l'outil qui pourrait être installé chez le particulier ou chez le professionnel. Et on est en train de discuter avec les premiers clients pour voir quel volume, combien on pourrait en vendre et faire en quelque sorte des précommandes.
Voilà, c'est ça, parce que le mécanisme en question, le filtre, serait installé sous le bac à douche lorsqu'il y a un bac à douche, et si c'est une douche à l'italienne par exemple?
Alors ça dépend des équipements. Là encore, il y a à peu près autant de douches qu'il y a d'habitations.
Ouais.
C'est assez difficile entre une douche avec une baignoire, une douche à l'italienne, avec des jets ou une pluie. C'est assez variable. Notre volonté, c'est d'avoir un système qui s'installe facilement et sur le maximum d'équipements possible, qui soit le plus largement adaptable pour pouvoir maximiser l'impact. Peut-être dans un premier temps, nos premiers prototypes s'adapteront à une seule partie des équipements, donc peut-être que douche à l'italienne ou bien douche avec un bac, c'est pas encore arrêté comme décision, mais le but, c'est d'avoir un système qui s'installe le plus facilement et le plus largement possible.
Voilà, c'est ça. Donc, douche à l'italienne, par exemple, on pourrait imaginer que ce soit installé dans les parois directement de la douche.
Tout à fait, ça pourrait être sur les cloisons.
Voilà, et non pas dans le bac. Exactement. Alors, il y a des entreprises qui croient en vous et qui vous accompagnent. Vous êtes aujourd'hui hébergé dans les locaux de Pierre Fabre, c'est ça?
C'est exact, ouais. Depuis 2 semaines maintenant, on a enfin déménagé dans des locaux chez Pierre Fabre. Ils nous mettent à disposition un espace de laboratoire justement pour qu'on puisse continuer nos tests sur les prototypes de la douche notamment. On avait besoin de cet espace de laboratoire parce qu'on a besoin de pouvoir renverser un peu d'eau et on ne pouvait pas faire ça dans n'importe quel lieu. Donc ce partenariat avec Purefab nous permet ça.
Et pourquoi ils ont cru en vous ? Comment vous avez défendu le projet alors ?
C'est difficile à dire pourquoi ils ont cru en nous. Je pense qu'ils ont, ils ont apprécié l'innovation qui était portée derrière ce projet. Ils y voient peut-être aussi des pistes de partenariat possibles. En tout cas, c'est l'objet de cette première phase de partenariat qu'on a mis en place, c'est pouvoir réfléchir par la suite qu'est-ce qu'on pourra développer ensemble.
Mais voilà, mais pour vous, c'est une chance extraordinaire d'être soutenu par un groupe comme Pierre Fabre.
Pour nous, c'est effectivement une chance de pouvoir nous afficher avec un partenaire comme Pierre Fabre derrière nous qui soutient le projet.
Voilà, c'est une vraie carte de visite. Vous restez avec nous ? À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et si vous le permettez, on repart sous la douche avec deux jeunes entrepreneurs, Antoine Escande et Simon Buoreau, qui ont créé leur entreprise. Il y a, vous allez tout savoir, on va approfondir le sujet douche, avec Gilles Brochen.
Bonjour.
Bonjour Gilles. La douche, je me posais la question, vous passez combien de temps sous la douche ?
Alors justement, moi j'avais une question à ces deux jeunes entrepreneurs, c'est que moi je prends des bains.
Ah.
Et je me demande, alors c'est pas bien, je sais que ça n'est pas bien du tout, mais je me demandais si c'était envisageable d'adapter ce système sur ma baignoire.
Antoine.
Alors, en tant que tel, aujourd'hui, non, parce que c'est un système qui recycle l'eau, donc de la douche, et on a 5 litres d'eau. Dans une baignoire, si on mettait que 5 litres d'eau, elle serait bien loin d'être remplie. En moyenne, un bain, c'est quand même une centaine de litres à chaque fois. Et nous, ce qu'on fait dans notre système, on n'a pas de stockage, donc il n'y a pas de cuve qui permettrait de recycler d'un bain sur l'autre l'eau. C'est aussi un parti pris de notre côté de ne pas avoir de stockage pour éviter le développement bactérien ou l'impact psychologique de se dire que je me lave avec l'eau de quelqu'un d'autre, même si elle est nettoyée. On ne fait pas de stockage, c'est que de l'eau neuve au début qui est évacuée à la fin de la douche. Et donc, en tant que tête, dans un bain, ce ne serait pas possible. Par contre, avec notre système, on peut prendre des douches aussi longues qu'on le veut, et donc elles deviennent aussi confortables, parce qu'on consomme, dans tous les cas, 5 litres d'eau.
Et, oui, et donc, je vais me mettre à la douche.
Et voilà, c'est ce qu'on allait dire. Obligatoire, Gilles. Autre question.
Oui, alors vous parliez de vos partenaires. J'imagine que vous en avez besoin en ce moment, vous en cherchez qu'ils soient financiers, peut-être pour la fabrication, peut-être déjà envisagez-vous des modes de commercialisation. Au fond, c'est l'occasion, quand on est à la radio, de se demander de quel partenaire on a besoin pour faire un appel.
Alors, tout d'abord, aujourd'hui, on est accompagné par Première Brique, qui est l'incubateur d'innovation sociale de Toulouse Métropole, qui justement nous accompagne sur toutes ces démarches, toutes ces réflexions, cette structuration de l'entreprise, les types de partenaires qu'on doit chercher, etc. Aujourd'hui, effectivement, on cherche des financements. C'est un point très important dans notre actualité. Si on veut pouvoir continuer le développement et arriver à une phase d'industrialisation et de commercialisation de nos produits, il va falloir des financements. On a commencé à identifier quels pourraient être les partenaires, justement, pour l'industrialisation, pour la commercialisation, la distribution. C'est des discussions qui sont au démarrage. Mais c'est assez prometteur de voir que ces gens-là sont aussi parfois des gens qui sont venus vers nous sans qu'on ait à les démarcher. Donc c'est une preuve aussi de leur envie de nous accompagner dans notre développement.
Et vous allez faire fabriquer à quel endroit ?
Alors, aujourd'hui, on ne le sait pas encore. On a la volonté de pouvoir le faire fabriquer le plus localement possible. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Maintenant, il va falloir trouver des partenaires qui sont le plus proches possible. Il n'y a pas beaucoup de professionnels de la robinetterie ou de la douche dans le sud de la France. Mais déjà, si les premiers partenaires sont français ou dans des pays limitrophes en Europe, ce sera intéressant. Dans un second temps, quand nos volumes de vente le justifieront, on a la volonté de réinternaliser une partie de la production et du coup de ramener en Occitanie une partie de la production de nos systèmes.
Gilles.
Vos cibles de clients, au fond, il y en a deux types. Il y a les particuliers. Et là, on voit bien la vente à l'unité chez les particuliers, ce qui est probablement un mode de commercialisation. Et puis, vous dites sur votre site que vous voudriez bien vendre aux hôtels, aux campings, etc. Est-ce que ça suppose que votre système peut se globaliser pour plusieurs douches ou que même dans un hôtel, il faut un système par chambre et par douche ? Enfin, il y a deux questions dans la question, en réalité.
Alors l'idée, c'est d'avoir à chaque fois un système qui est très local dans une douche, parce que ça va demander le moins de travaux possible. Si on veut installer un système qui va recycler l'eau de tout un bâtiment. Ça demande de faire des réseaux parallèles dans le bâtiment qui vont récupérer les eaux grises de toutes les douches, qui vont les traiter à un endroit pour les ramener ensuite. C'est complexe en termes de travaux, ça peut aussi vite devenir beaucoup plus cher. Avec des systèmes qui sont très locaux, il n'y a pas de risque de double réseau, il n'y a pas besoin de faire des travaux importants. Donc pour répondre à la première question, c'est plutôt des systèmes individuels. L'autre question, c'était les types de clientèle. Effectivement, dans un premier temps, on cherche à diffuser nos solutions auprès des gros consommateurs d'eau, donc les bailleurs, les hôtels, les campings, des salles de sport. Finalement, des bâtiments où il y a déjà plusieurs équipements de douche qui sont installés et dans lesquels la consommation en eau dans la douche est parfois plus importante. Il y a des études qui montrent qu'à l'hôtel, on consomme en moyenne deux fois plus qu'à la maison, puisqu'on a payé la chambre, donc on se sent légitime de consommer un peu plus d'eau. C'est aussi pour nous une démarche qui est plus simple de commencer à aller vers ces types de clientèle, parce que ça va être une distribution plus simple. Distribuer à du particulier, ça demande une logistique assez importante, difficile à mettre en place au départ. Encore une fois, on commence à imaginer des types de distribution avec certains partenaires, mais ce sera probablement dans un second temps qu'on arrivera sur le marché du particulier.
Vous avez remporté un prix également. Vous avez remporté la première place de la Social Cup. C'est la Coupe de France des jeunes entrepreneurs. Donc,
oui.
En fait, vous avez été récompensé déjà au niveau national.
Oui.
Alors, comment ça marche, ce prix?
Alors, c'était un concours qui était porté par Make Sense et les partenaires KissKissBankBank, la Banque Postale et GRDF. C'était un prix qui permettait aux jeunes entrepreneurs à impact, donc soit environnemental ou social, de proposer leur projet. Donc, il y a eu plus de 200 candidatures partout en France et il y a eu 12 finalistes qui ont été retenus dans 12 grandes villes de France. Donc, nous, on a été sélectionnés pour représenter la ville de Toulouse. Et on est parti du coup pour la grande finale le 6 février à Paris, où là ça s'est déroulé en 3 manches. Une première phase de poule où on était par poule de 3 projets. Et où il fallait avoir les votes du public. On avait un pitch de 1 minute à faire, donc une présentation rapide du projet en 1 minute, donc c'est très rapide. Et avec les votes du public dans la salle et les votes qu'on a eu en avance sur Facebook, arriver à être sélectionné face aux autres projets pour passer en demi-finale. Et là encore pitché une nouvelle fois d'une minute sur une autre partie. Donc là on a expliqué plus le fonctionnement de notre système. On est sélectionné, on a la chance d'arriver en finale. Et là aussi on pitch une dernière fois où on parle vraiment de nos valeurs, ce qui nous pousse à entreprendre. Et on a eu la chance d'être du coup gratifié par le public dans la salle de la première place. Et donc on gagne grâce à ça 4000 euros de dotation sur une future campagne de financement participatif qu'on fera sur KissKissBankBank.
C'est plutôt très 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 valorisant.
Merci.
Pour vous.
Oui.
Alors vous avez parlé de valeurs, vous disiez que vous exposez vos valeurs. Et effectivement, quand on regarde un petit peu la vie de Lilian, on s'aperçoit que cette notion de valeur est très importante pour vous, que vous les citez d'ailleurs assez largement sur votre site. Ce qui est bien pour une entreprise qui est presque en germe, mais vous mettez les valeurs très tôt et très haut dans vos préoccupations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche et au fond nous dire quelles sont les principales valeurs dont vous pensez qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez les mettre haut dans votre démarche?
Vous allez répondre tous les deux, Antoine.
En fait, nous, on a entrepris pour ça. On a eu d'abord l'envie d'entreprendre ensemble parce qu'on se connaissait, qu'on avait envie d'agir pour servir l'intérêt général. Et on s'est dit ensuite, qu'est-ce qu'on savait faire, nous, en tant qu'ingénieurs, avec notre savoir-faire, pour servir cette cause environnementale pour le bien de la société. Après, nous est venue cette idée de réduire l'impact de la douche, mais c'était d'abord les valeurs au centre, avoir une entreprise à mission qui va aider la société. Et nous, on les porte haut, effectivement, sur nos sites, sur nos communications, parce qu'on pense que c'est important d'avoir des sociétés, certes, qui sont rentables pour permettre une pérennité, faire des salaires, faire vivre des collaborateurs, mais le but n'est pas la rentabilité, le but c'est d'avoir une mission et d'être au service d'intérêt général. Et c'est ça qui nous motive et c'est aussi pour ça qu'on le porte haut, parce que notre but à nous, c'est de permettre à chacun de réduire son impact environnemental.
Simon, les mêmes valeurs?
Oui, Antoine en a déjà dit une bonne partie. On a travaillé pendant longtemps au départ, pendant nos études, dans nos associations, on a eu l'occasion énormément d'échanger et en fait on s'est rendu compte qu'on avait un peu une vision commune du monde dans lequel on a envie de vivre. Et je cherche comment l'expliquer, mais finalement c'est ces valeurs communes qui nous ont donné vraiment cette envie d'entreprendre. Il y a notamment, Antoine disait, une entreprise à mission. Effectivement, avant de chercher à faire beaucoup d'argent. L'objectif, c'est permettre de réduire l'impact sur l'environnement de nos gestes du quotidien. Et il y a aussi une partie sur... Je cherche encore mes mots, mais sur la partie durable, écologie, où on a envie de faire des analyses de cycle de vie des produits qu'on développe pour vérifier que leur impact, leur empreinte écologique, leur impact sur l'environnement est réellement positif. Pour pas qu'un produit qu'on développe consomme en fait plus d'eau et d'énergie à sa fabrication et à son recyclage que ce qui va permettre d'économiser.
Bien sûr.
C'est quelque chose qui dès le départ nous a interpellés. On s'est dit, il faut faire attention comment on développe nos systèmes, faire de l'éco-conception et garantir vraiment qu'on va remplir notre mission qui est réduire notre empreinte environnementale.
Gilles.
Vous écrivez que votre entreprise, Ilia, doit avoir une vision optimiste. Alors, vision optimiste, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'avoir une vision optimiste et de quoi ?
Alors effectivement, c'est étonnant de dire optimisme, pourquoi c'est important optimiste. À titre individuel, c'est vrai que quand on est confronté à des articles qui tendent à dire qu'il y a une chute de la biodiversité, qu'il y a des problématiques climatiques fortes qui apparaissent, des problématiques énergétiques, c'est des fois dur d'avoir une vision optimiste. On peut être persuadé des fois que tout va s'effondrer. C'est une possibilité qui pourrait exister. C'est clair qu'on va avoir des phases qui vont être compliquées, je pense, dans notre société, mais pour autant, il faut qu'on y aille avec optimisme. Je pense que c'est face à ces défis-là qu'on peut se réaliser et qu'on peut avoir quelque chose à apporter à la société. Et c'est l'occasion qu'on a de montrer la grâce qu'on a dans notre espèce humaine de dépasser les défis. On a un grand défi qui s'offre à nous, et c'est ça qui me rend optimiste, c'est que je pense qu'avec la solidarité entre les projets, les personnes, on peut arriver à imaginer quelque chose. Il y a un monde nouveau à bâtir, comme on l'a dit dans notre slogan. Et l'optimisme, il est par rapport à ça. Quoi qu'il peut se passer dans l'avenir, il faut qu'on l'affronte avec optimisme. J'ai fait pas mal de scoutisme étant jeune et puis adulte. Et il y a une citation approximative. Je vais avoir du mal à la ressortir intégralement du fondateur du scoutisme parce qu'il y en a beaucoup de qui nous plaisent. Mais il y en a une qui dit « Dans la vie, il faut choisir entre avancer ou reculer. Rester mobile ne sert à rien. Alors allons de l'avant et le sourire aux lèvres. » L'idée derrière tout ça, c'est se morfondre en étant immobile parce qu'on a peur de ce qui peut arriver demain. C'est pas ça qui va nous permettre de résoudre les problèmes auxquels on est confrontés. Alors que essayer d'y aller vers l'avant en étant optimiste, c'est peut-être la meilleure manière qu'on a de résoudre le problème. Mais ça veut pas dire qu'il faut nier les problèmes auxquels on est confronté.
Mais c'est une vraie philosophie de vie.
Tout à fait, oui.
D'autant plus que qui n'avance pas recule.
Ah oui.
Wow. y a un autre système que vous êtes en train de développer, ou vous avez développé, c'est une sorte de petit compteur que l'on peut mettre sur la douche. Alors ça, Gilles, c'est pour vous qui prenez le bain. Ça peut nous faire prendre conscience du temps que l'on passe sous la douche, tout simplement, parce qu'en fait, c'est juste nous dire arrêtez de prendre des douches pendant 15 minutes.
Alors surtout, au départ, le constat qu'on a fait, c'est quand on parlait de notre projet de douche cyclique aux gens, très peu avaient une notion de la consommation en eau dans la douche et encore moins une notion de la consommation énergétique de cette eau qu'il faut chauffer. Et on s'est dit qu'il faut apporter une solution à toutes ces personnes en leur proposant justement un outil de sensibilisation, un outil pédagogique qui va les inciter, qui va déjà les aider à prendre conscience de leur consommation. Et ensuite, les inciter à réduire leur consommation dans la douche. Ça peut être fait via des défis qui sont présentés justement sur l'écran qui est associé à ce capteur.
Donc ça, ce petit appareil, on le trouvera prochainement ?
Alors oui, on va lancer des premières expérimentations chez des partenaires à la fin de l'été 2020. Et donc ce sera l'occasion d'avoir des premiers retours aussi. De la même manière, c'est un produit qu'on imagine d'abord pour les professionnels et qui... sans doute un peu plus tard, arrivera pour les particuliers.
Gilles.
Je vois que vous vous partagez assez bien et équitablement le micro, ce qui prouve que vous devez bien vous entendre, mais c'est facile de travailler à deux ?
En fait, c'est même nécessaire. Dès qu'on a lancé le projet, on s'est regardé droit dans les yeux, on a fait un espèce de contrat d'engagement, de se dire, est-ce que tu veux vraiment partir sur ce projet ? Est-ce que tu es prêt à risquer aussi un peu de partir sur le projet ? Tant en termes financiers qu'en termes de temps qu'on y consacre, et on s'est dit oui, on y va, mais on n'y serait pas allé seul parce que on a besoin d'être deux pour les moments où on a un coup de mou, pour qu'il y en ait un qui puisse aider l'autre, le soutenir, le relever, et surtout les quelques fois où on peut se prendre des bâtons dans les roues, quelques embûches face à des moments où ça se passe pas forcément toujours très bien. Être à deux, ça aide énormément à se remotiver et à se relancer dans le projet.
Merci beaucoup. On vous attend. Il y a une solution pour la planète. On vous attend. Il y a. Comment s'écrit Ilya ? On vous trouve facilement sur le net ?
Alors, ça s'écrit I-L-Y-A. Finalement, comme le début de la phrase, il y a, mais alors sans les espaces entre
voilà,
il y a.
Tout attaché.
Tout attaché. Et oui, on commence à avoir une bonne visibilité sur le net, à être assez bien référencé sur les moteurs de recherche. Donc, on peut effectivement nous retrouver sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn.
Et donc, si quelques business angels nous écoutent, ils peuvent vous contacter.
Avec grand plaisir.
Merci à vous, Gilles Brochen.
Merci beaucoup.
Retrouvez-nous facilement sur le site radioprésence.com et écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com.